Séance maintenant. Question orale. Madame Singer. Madame, c'est une question orale de 4 pages. Si jamais, parce que j'ai tout lu plaisir. Plusieurs fois.
Ah, mais ça, c'est, ça me fait plaisir en tout cas que vous ayez tout lu. Non, ça n'a rien à voir avec une synthèse. C'est que je pense que sur ce sujet, vous voyez, alors, je suis restée très tranquille pendant quelques mois.
Madame, je ne vous ai
pas trop embêtée avec le sujet du cinéma, mais ça, c'est mon
voulez. Combat.
Je vous remercie. Alors, maintenant, c'est à moi.
Je suis un grand démocrate.
Maintenant, c'est à
vous
moi et c'est ma question orale.
Allez-y.
Sur le sujet. Alors, récemment, notre journal titré « Metz a-t-elle perdu la tête ?» Il évoquait sans ambiguïté avec force que je ne cesse de vous dire depuis maintenant 3 ans, notre offre cinématographique est en voie de monopolisation et sans doute surdimensionnée. Si vos adjoints pouvaient ne pas parler, ce serait bien. Alors, monsieur le maire, de manière unilatérale, vous avez décidé de confier cette offre au seul groupe belge Kinépolis, sans appel d'offres, sans débat en conseil municipal, comme je vous l'ai pourtant demandé, et bien entendu, sans vous soucier de l'avis de cette assemblée. Alors, vous ne vous êtes même pas donné la peine d'écouter non plus l'avis des médecins qui ont pourtant, via le ciné collectif et la JICAM, protesté, fait une pétition qui a réuni plus de 10 000 signatures et demandé des explications et des documents permettant de comprendre votre décision. À ces multiples demandes, vous n'avez jamais daigné donner suite, les rejetant inlassablement, ne répondant jamais aux questions, ne donnant jamais le détail des éléments de ce dossier. Cette fin de non-recevoir est d'autant plus troublante que le tribunal administratif de Strasbourg rouvre le dossier et diligente un complément d'instruction suite au recours en annulation déposé par le Ciné Collectif et la JICAM. Fait encore plus troublant, monsieur le maire, le groupe Kinépolis est même devenu volontairement parti dans cette affaire. La persévérance des médecins et de ce collectif va-t-il le 6 décembre prochain faire date ? Une chose est sûre, rien n'est encore joué et vous avez fait prendre à la ville de Metz un risque juridique dont elle pouvait faire l'économie. Monsieur le maire, quelle que soit la décision du tribunal, l'opacité de ce dossier est manifeste et pourtant ce n'est pas faute d'avoir réclamé ici au sein de ce conseil municipal l'ensemble des documents. Une transparence est donc nécessaire dans ce dossier, au même titre que celle que nous avons demandée autour de l'appel à projet pour la vente de 3 bâtiments emblématiques de la place de la Comédie et appartenant à la ville. Aussi ce soir, je vous demande une dernière fois dans cette salle qui a vu pourtant défiler des hommes et des femmes soucieux du respect de la démocratie, de me transmettre les documents précis et notamment l'ensemble de la correspondance entre la ville et Kinépolis. Des premières réunions jusqu'à votre incompréhensible décision. Je pense en particulier notamment à la correspondance que Kinépolis évoque dans sa lettre du 15 octobre 2014 et qui fait notamment référence à 2 courriers datés du 10 février 2013 et du 30 juillet 2014. Où sont ces courriers, monsieur le maire ? Encore une fois, quoi qu'il arrive le 6 décembre prochain, un sérieux doute subsiste sur cette affaire et ces documents doivent être mis à la disposition des médecins. Le premier magistrat de la ville ne peut se soustraire à cette obligation légale. Lorsque vous avez été élu maire, ce n'est pas un blanc-seing que les médecins vous ont donné et je me réjouis que le complément d'enquête demandé par le tribunal vous le rappelle. Samedi dernier, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y avait notamment une chaîne humaine entre nos 2 cinémas de centre-ville et qui a rassemblé plus de 200 médecins et cette action ne restera pas sans suite. Sachez, monsieur le maire, que les médecins sont déterminés et que nous ne baisserons pas les bras. Un cinéma populaire, indépendant et attractif en termes de prix est nécessaire pour notre centre-ville. Ce soir, au nom du Ciné Collectif et de la JICAM, au nom des milliers de médecins, je réclame un appel à projet dans le cadre d'une délégation de service public afin de pouvoir contrôler les différentes promesses que vous avez énoncées lors de la présentation du projet à la presse et ici même lors d'un conseil municipal. En effet, vous nous aviez indiqué les yeux dans les yeux que votre décision de confier l'offre cinématographique de centre-ville au groupe Kinépolis était fondée sur son engagement à maintenir un cinéma d'art et d'essai, à créer une salle d'éducation à l'image, à faire des travaux pour mettre en place une salle d'exposition, à reprendre tous les salariés, à embaucher monsieur Humbert et enfin à maintenir des tarifs attractifs. Pourtant, monsieur le maire, dans le cadre du recours de la JICAM contre l'attribution de la gestion du palace au groupe Kinépolis, l'avocat de notre ville a indiqué, je cite, « Il ressort des termes même de cette décision que les points susvisés constituent les grands principes directeurs de la rénovation et du développement de l'offre cinématographique présentée par le Cinéma Palace. Ils ne constituent toutefois en rien des objectifs contraignants dont la collectivité viendrait à contrôler la réalisation effective point par point. Alors cela signifie bel et bien, monsieur le maire, que le groupe Kinépolis n'est absolument pas tenu de respecter la décision de notre conseil municipal et que vous le saviez au moment de votre présentation en conseil municipal. L'avenir, évidemment, vous en fera rendre compte devant le tribunal et devant les médecins. Je vous remercie.
Merci. La réponse va être plus courte. Ce dossier a été largement présenté et débattu lors de notre conseil de janvier 2016. Est-il encore utile de rappeler les enjeux poursuivis consistant à proposer en plein centre-ville et dans des locaux totalement restaurés un cinéma art et essai disposant de conditions d'accueil optimisées, j'allais ajouter dignes de ce nom, et offrant une salle d'éducation à l'image des lieux de rencontre, d'espaces, d'information. Tout ce qui a été dit et redit depuis plus d'une année maintenant sera réalisé, et ce, en conformité avec les attentes de la municipalité. Pour le reste, comme vous le soulignez à juste titre, une association a cru utile de déférer la délibération de ce conseil municipal devant le tribunal administratif. Nous attendons donc le résultat de ce recours. Voilà. Madame Thomas. J'ai entendu votre... Eh bien, vous, répondez.
Et je pense que les médecins ont besoin de le recevoir. Et ce n'est pas normal non plus qu'un collectif, quand il vous demande des documents, vous ne le lui donniez pas. Ce n'est pas normal. Après 3 ans, monsieur le maire, nous avons tous le droit à avoir ces documents. Ce n'est pas possible. Nous sommes ici dans une assemblée constituée d'élus qui justement, ont besoin d'avoir ces documents. Alors, où sont ces documents ? Que devons-nous faire pour les avoir, monsieur le maire ?
Madame, j'ai entendu votre question, vous avez entendu ma réponse. Merci. Madame Thomas. C'est la
démocratie. Je vous remercie, monsieur le maire.
La transparence. C'est incroyable.
Laissez parler madame Thomas, s'il vous plaît.
Non, mais c'est juste un
c'est pas grave.
Non, mais
madame
c'est
Thomas,
incroyable.
La parole.
Merci. Monsieur le maire, nous apprenons par le journal que les autorisations n'auraient pas été effectuées dans les temps et selon les contraintes qu'oblige le secteur sauvegardé concernant l'installation de la grande roue sur la place d'Armes et de la patinoire sur la place Saint-Étienne. Et ceci depuis 2 ans. Nous souhaiterions avoir la communication exacte par les services municipaux concernés. Nous avons un certain nombre d'informations et aimerions donc que vous nous précisiez ce qu'il en est exactement du suivi de ces dossiers.
Merci, madame. Voici ma réponse. Les festivités de Noël sont un temps fort de l'année, vecteur d'attractivité et d'emploi pour notre territoire. Depuis 2015, la grande roue est située sur la place d'Armes. Et depuis cette année, la patinoire place Saint-Étienne. Ces deux attractions viennent sublimer la cathédrale de Metz et font le bonheur des visiteurs et des photographes. L'organisation du marché de Noël, je vous le rappelle, est gérée par la Fédération des commerçants qui est chargée de l'ensemble de la logistique. Le dossier a été envoyé à l'ABF au début du mois d'octobre. L'ABF a répondu fin octobre que, j'ouvre les guillemets, le projet de cahier des charges d'exploitation de la place d'Armes recevait un accord de principe, sous réserve d'intégrer certaines observations qui ont notamment été intégrées au dispositif lors d'une réunion des parties prenantes début novembre. Au cours de ce temps de travail, le projet d'implantation de la patinoire de la place Saint-Étienne a aussi été abordé. Un temps de coordination est donc d'ores et déjà prévu au printemps 2018 avec l'ABF pour affiner le projet 2018. En clair, l'ABF nous demande 6 mois de délai. Voilà. Sachez tout notre engagement à préserver notre patrimoine et à travailler en bonne intelligence avec tous les acteurs pour mettre en place de grandes manifestations d'envergure qui permettent à Metz de rayonner en France et au-delà. Voilà. Oui, madame.
J'aimerais ajouter tout de même des précisions. Il y a 2 journaux qui ont alerté tout de même de ce problème qui est tout de même très important parce que ça nous concerne, nous. Ça concerne l'immense manège que nous avons sous les yeux. Hein. Et les réponses que vous donnez, est-ce que moi j'ai eu très clairement de la source, parce qu'on est toujours informé par les journaux. ça date de mardi, donc c'est vraiment tout frais. On m'a dit très clairement que la demande avait été déposée le jour même de l'installation, que pour la patinoire, il n'était pas au courant à la DRAC, que ensuite il y a eu des aberrations, notamment des experts qui avaient prévenu, qui ont alerté qu'il y avait eu un affaissement de terrain de 2 cm sur la place d'Armes. Et oui, vous avez l'air, on est étonné. Des gens qui sont des ingénieurs, qui sont, je dirais, du... Ben oui, c'est bien. Mais malheureusement, il y a eu des personnes qui sont dans ce qu'on appelle la géotechnique, qui ont fait une étude de terrain et qui ont bien précisé qu'avec des... Exactement. Mais, madame, puisque les choses ne sont pas faites, comment voulez-vous que ça se passe, hein? Il y a des personnes... Oh, ça vous fait rire, mais heureusement qu'il y a des personnes qui sont des sentinelles et des alertes, qui alertent. Hein. Parce que si tout se passait comme ça, hein, les associations, il y a des associations de sauvegarde du patrimoine, justement leur action bénévole, c'est justement d'intervenir pour qu'il y ait un autre regard sur les choses qui nous concernent. Alors, il est tout de même plus que choquant de constater que la municipalité n'aurait pas pris les mesures qu'il fallait, et on dirait plutôt à la légère, le fait de se conformer à la législation en vigueur pour ce qui concerne les contraintes liées aux monuments historiques, MH, et au respect du patrimoine. De plus, nous constatons que la ville a réitéré pour la 2e année consécutive qu'il y avait déjà eu une mise en garde.
Troisième année.
Bien, merci de préciser. Une alerte a été donc donnée par des personnes qui bénévolement ont la compétence de voir justement, de faire une étude diagnostique, hein, des experts. Et voilà. Et donc, on est en train de se rendre compte qu'il est inadmissible que la municipalité elle-même puisse mettre en péril, très clairement, les abords de la cathédrale et la cathédrale elle-même. Et c'est ainsi que l'on considère un secteur sauvegardé. Les monuments qui composent la richesse patrimoniale de Metz ne sont-ils considérés que comme un décor? Et quand vous dites sublime, mais désolant et désolé, la mise en valeur d'un édifice ne se fait pas du tout comme cela. La vie des personnes qui ne connaissent pas Metz, c'est que la grande roue cache la cathédrale. Textuellement, entendu, plusieurs fois. Ce n'est pas comme ça qu'on valorise un monument historique. Je poursuis. Pourquoi aussi un entêtement? Il est évident que la grande roue, qui offre une vision panoramique en hauteur, doit être placée dans un espace ouvert et dégagé. La place de la République s'avère être l'emplacement idéal pour avoir une vision rayonnante de la ville. Évidemment, la patinoire ne devrait pas bouger de la même place de la République. Ce genre d'attraction, m'a-t-on confirmé, correspond tout à fait bien à un parking de centre de supermarché, un espace ouvert à tous et non dans un espace confiné comme la place Saint-Étienne. On m'a même signalé des aberrations, le fait de vouloir percer le sol et justement d'apporter des dégâts par rapport à la voûte classée. De plus, l'installation... devant le fait accompli, comme on a pu le voir notamment pour les travaux bêtises, eh bien, n'ont même pas permis de travailler justement sur la mise en péril de cette place Saint-Étienne, qui d'ailleurs est creuse, hein, si personne ne le sait. Voilà. Mettre devant le fait accompli traduit un état d'esprit de passe-droit. Hein. Je reprends le terme de certaines personnes. Quand on est dans le privé, quand on construit quelque chose, on est en face de le démonter illico presto quand on n'est pas dans les règles et dans les clous. Fort de constater que certains semblent oublier que la cathédrale est un édifice religieux, lieu de silence et de prière, il nous semble que la projection dite mapping et la période estivale doit être revue, à la fois dans son contenu d'image et sa mise en forme. Et puis, ne faut-il pas également des autorisations pour cela? Ont-elles été bien accordées? Nous avons un doute sur la compétence et le sens de la responsabilité de certains, parce que cela veut dire qu'on voit une tempête comme la tempête du siècle. Est-ce qu'on est sûr que ce ne sera pas du côté de la cathédrale ou du côté du palais, de là où nous sommes, de la mairie, qu'elle pourrait tomber?
On vous a bien compris.
Voilà, je terminerai juste. Cette attitude qui peut paraître désinvolte, quand on lit exactement le rapport de l'UNESCO, eh bien, ce n'est pas du tout ce qui est attendu par rapport aux instances de l'UNESCO. Hein.
Merci, madame.
Voilà. Merci, madame. Et oui, l'UNESCO qui est un challenge... Là, je peux vous dire, quand on voit les rapports, ce qui est attendu, ce n'est pas du tout ça.
Madame,
je vous remercie, monsieur le maire.
Vous avez largement utilisé votre droit de réponse à la... Voilà, on va laisser la grande roue. C'est la troisième fois qu'elle est là. Faites attention, parce que ça passe vite, les années. Hein. Ce n'est pas deux fois, c'est trois fois. Hein. Voilà. Eh oui. Ben oui.
Nous attendons à vous autour de Pisa,
et vous le savez comme moi, c'est une place qui a été taillée très difficilement par les troupes et les soldats, les malheureux et les ouvriers du maréchal de Belle-Île, et on est dans le dur, hein, parce qu'il faut savoir que et on a taillé dans la colline. Hein, voilà.
C'est pas tout à fait ça.
Alors maintenant, la parole est à Madame Grollet. Si jamais vous avez un rapport d'affaissement, vous me l'envoyez.
De l'UNESCO aussi,
enfin je sais pas.
Allez, de l'UNESCO.
Madame Grollet, vous avez la parole. Madame Grollet, vous avez
Monsieur
la parole.
Le maire, je vous interroge. Je vous ai interpellé en avril 2016 sur le devenir de la Fournirue. Et avec l'irruption du centre Muse, avec ses 110 cellules commerciales, ses 35 000 mètres carrés dans le paysage commercial messin, la question mérite d'être envisagée à nouveau, puisque nous avons l'ambition donc de faire vivre et de vitaliser notre centre-ville. Parce que la Fournirue est en effet emblématique à la fois des atouts réels, mais aussi des attentes impératives de nos rues commerçantes. C'est un passage obligé de la place Saint-Louis vers la place d'Armes, de plusieurs entrées de la ville vers la cathédrale, et elle mériterait une visibilité exceptionnelle et un traitement très soigné de son aspect. C'est également une artère bordée de commerces de bas en haut, accessible en voiture, donc avec une visibilité supplémentaire, et en bus, proche d'un vaste parking souterrain et offrant deux débouchés au centre commercial Saint-Jacques, récemment rénové. Elle devrait donc connaître un taux de vacances inférieur à la moyenne du centre-ville. Il y a un an et demi, vous m'avez répondu qu'un travail de fond était mené avec les commerçants pour redynamiser le secteur. Or, on constate que les dépôts d'ordures non verbalisés, les affichages sauvages, les tags non effacés sont encore fréquents. On constate que la valorisation de la façade de la maison des têtes reste à faire, pas d'éclairage, enseignes pendantes, armoires électriques, poubelles dégradées. Et enfin, le taux de vacances est très préoccupant, dépassant les 20%. Pouvez-vous donc nous faire le point des actions qui ont été réalisées et de celles qui sont en cours ? Je vous remercie.
Merci, madame. Je vous réponds. Alors, en matière de commerce pour 2017, la Fournirue totalise 5 ouvertures de commerce, un nouveau coiffeur au numéro 20, un bar à vin au numéro 19, une boutique de déco au numéro 84, 2 commerces ouvriront prochainement, un traiteur asiatique au numéro 42 et une saladerie italienne au numéro 44. À ces 5 ouvertures s'ajoute l'extension de la boutique Objet Singulier qui vient de doubler de largeur, si vous avez été voir cette rue pour me poser cette question. Le taux de vacances reste. Madame, vous avez déjà nous avez 4 pages. Plus encore une grande réponse. Pitié, s'il vous plaît. Nous commençons à avoir faim les uns les autres. Alors, le taux de vacances qui est trop élevé, toujours trop élevé, se situera autour de 15% après ces 2 installations. Voilà. Alors, en matière d'affichage non autorisé, les interventions des services municipaux sont systématiques lors de la constatation de présence d'affiches, tags ou autres dégradations sur le domaine public. Des organisateurs de manifestations autorisés par la ville de Metz sont sensibilisés sur les, j'ai écrit des lettres, sur les règles à respecter en matière de respect de l'environnement et par conséquent des contraintes à respecter en matière de promotion de l'événement. À cet effet, des arrêtés municipaux portant autorisation d'une manifestation sur domicile public et ou de tenue d'une buvette spécifique aux organisateurs qui leur est interdit, il leur appartient de veiller scrupuleusement au respect de l'article R41-863, et je vais vous le lire, attention, du Code de la route relatif à la publicité et aux enseignes visibles des voies ouvertes à la circulation publique. Et on y va. Il est interdit d'apposer des placards, papillons, affiches ou macarons ou marquages sur les signaux réglementaires et leurs supports, ainsi que sur tout autre équipement intéressant la circulation routière. Cette interdiction s'applique également sur les plantations, les trottoirs, les chaussées, d'une manière générale, sur tous les ouvrages situés sur les emprises du domaine routier ou surplombant celui-ci. Elle s'étend également aux poteaux de distribution d'électricité, de télécommunications, ainsi qu'aux installations d'éclairage public. Par ailleurs, jeudi dernier, nous avons signé une convention de partenariat, merci Madame Sallusti, avec l'association Centre-Ville en Mouvement. Metz a été sélectionné, encore une mauvaise nouvelle, aïe aïe aïe, Metz a été sélectionné par un vote à l'unanimité des membres du bureau de l'association Centre-Ville en Mouvement pour accueillir la 13e édition des Assises du Centre-Ville, premier rendez-vous européen en la matière, les 7 et 8 juin prochains. Encore une mauvaise nouvelle. Oh, c'est pas vrai. Ils osent venir. Ils osent venir dans cette vallée de larmes qu'on nous a décrite toute la soirée. Elle prend dans le même temps le statut de référence en matière de dynamisme commercial en centre-ville. Si Metz était retenue pour ce rendez-vous important, c'est qu'elle fait figure de bons élèves avec un taux de vacances commerciales en centre-ville de moins de 6%, étude Procos 2016, tandis que ce taux avoisine les 10% en moyenne à l'échelle du pays pour des villes comparables. En 2016, à Metz, on a ouvert 2 fois plus de boutiques qu'on en a fermées. C'est comme ça. Je suis navré, hein, mais bon, c'est comme ça. Alors, enfin, concernant la Maison des Têtes, et c'est une bonne question, la Maison des Têtes, un travail entre le groupe Clépierre, qui est propriétaire de la Maison des Têtes, et le musée de la Cour d'Or, est en cours pour accueillir un projet de qualité qui, espérons-le, sera à la hauteur du prestige de cette maison.
Non, pas en masse. Puis le beau, il veut l'acheter aussi.
Voilà, la séance est levée, je vous remercie. Ah non, vous voulez répondre? Alors répondez, madame, répondez, la nuit est à nous, on
oui.
y va.
Je ne vais pas rentrer dans
la... Il y a un huis clos après, hein. Vous ne sauvez pas tous, sauf les publics. Allez-y, madame.
Oui, monsieur le maire, je ne vais pas rentrer dans l'ajout concernant la vacance commerciale. Déjà, Metz, la commerçante, devrait avoir un taux bien inférieur à la moyenne nationale. On devrait avoir un taux... de toute façon, les chiffres que vous nous indiquez, à part une vacance structurelle qui est normale, ça devrait faire qu'on ne devrait plus avoir une seule cellule commerciale vide dans la ville. Si on double le nombre d'installations... chaque année, là, il y a quelque chose d'un peu étonnant qui ne correspond pas à notre vision. En tout cas, j'ai fait cette étude sur la Fournirue entre il y a un an et demi et maintenant, la vacance s'est aggravée. Elle s'est aggravée et il y a une volatilité des commerces qui est normale, mais où on peut aussi parler du centre Saint-Jacques dans ce cas-là, qui est dans un état, c'est un vaisseau fantôme. Il aura, je pense, beaucoup de mal à se remettre de la concurrence déloyale de l'autre côté de la gare. Là-dessus, on n'arrivera pas à s'entendre. Sur l'affichage sauvage, vous nous avez dit les services municipaux interviennent systématiquement. Alors, je vous signale qu'il y a eu, depuis ma dernière interpellation, 2 campagnes d'affichage de l'extrême gauche, extrêmement visibles, extrêmement voyantes et voire agressives. Il y avait des signataires et à ce que je sache, je vous ai même écrit à ce sujet sans avoir de réponse. Je ne sais pas si vous avez intenté une action en justice alors que les signataires étaient largement identifiés. Sur les associations subventionnées qui se permettent de coller leurs affiches sur les boîtiers électriques, etc., il y a actuellement Musique Volante qui pratique ce genre de choses. Bon, c'est les services municipaux qui vont nettoyer alors que nous avons subventionné. Je trouve que le contribuable est bon prince. Et enfin, lors de la manifestation novembre de l'égalité, là, je ne sais plus comment, Fabrique de l'égalité, il y avait dans le cloître des récollets, sur tous les piliers, une affiche qui a été l'objet en septembre, ça a ému quand même pas mal de Messins, un grand nombre d'affiches rouges là qui étaient vraiment très visibles et qui ont sali pour ne pas être vulgaires, voilà, qui ont souillé toute la ville, tous les quartiers de la ville. Et ces personnes dont vous disiez c'est un collectif, on ne peut pas les identifier, étaient dans une manifestation de la ville de Metz, dans le cloître des récollets. Bon, là, ils n'ont pas collé, évidemment, mais donc ces affiches trônaient dans une manifestation officielle de la ville. Alors, si on ne les connaît pas, il y a peut-être un moyen de récupérer leur adresse et de l'adresser, je ne sais pas si c'est au préfet ou au tribunal, mais j'ai quand même l'impression qu'il n'y a pas énormément de volonté politique de s'en prendre à certains qui salissent notre ville.
Je vais dire 2 mots, hein. Moi, j'ai islam assassin, islam dehors, riposte laïque. Ça existe aussi, c'est sur les murs de Metz. Si jamais vous les connaissez, vous leur faites passer le message. Premièrement. Deuxièmement, c'est moi qui parle maintenant. Vous avez parlé, je parle. C'est moi qui parle. Par ailleurs, l'irruption des 110 cellules du centre Muse, ce n'est pas des cellules cancéreuses. C'est aussi des gens. Et on peut les respecter. Voilà, la séance est levée.